Voix de plume sur Radio Django.
Cette huitième émission de Voix de plume n'est pas consacrée à un auteur, mais à un bouquet d'auteurs. Leur point commun, un homme, Giuseppe Meron, qui a fondé en 2011 à Lausanne les éditions BSN Press. Bonsoir Giuseppe Meron.
Bonsoir Pascal.
Faisons un peu plus ample connaissance, vous avez grandi à Lausanne et la passion de la lecture a, semble-t-il, émergé relativement rapidement. Si j'ai bien compris, d'abord des livres d'histoire et de la philosophie ?
Oui, ça peut être un peu plus tard quand même. J'ai commencé par des bandes dessinées qu'un oncle m'avait offert et puis ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être le terme philosophie, ne sachant pas exactement pourquoi, m'avait retenu et j'ai quand même lu assez tôt ce genre de choses.
Ouais, donc philosophie et livres d'histoire avant la littérature générale ?
Dans des histoires, j'en ai toujours lu, mais peut-être j'avais un penchant intellectuel pour ces choses et ça me semblait plus important. Je voyais la littérature plus comme une distraction jusqu'à un moment où j'ai peut-être changé d'avis sur cette question, voilà, mais plus tard.
Et qu'est-ce qui fait basculer ?
Je pense que c'est essentiellement mon voyage au Japon qui m'a fait changer d'avis sur la question, parce que armé d'outils sociologiques, économiques et autres, j'ai quand même été passablement désorienté là-bas et j'ai eu l'impression qu'en lisant des romans, j'avais accès à quelque chose qu'on pourrait appeler la singularité, être au plus près des gens et des choses à ce moment-là, oui. Alors là, la littérature m'a paru comme non seulement un outil esthétique, procurant du plaisir, mais aussi un outil de connaissance.
Alors c'est un peu la boucle qui se boucle, parce que vous êtes parti au Japon à cause de la littérature, grand amateur de littérature japonaise.
Oui, aussi, il y avait eu un coup de foudre quand j'étais jeune pour Mishima, notamment Confession d'un masque, et voilà, ce Japon était là un peu derrière, comme ça, un peu fantasmé, et puis j'ai eu envie d'y aller, et puis finalement ça s'est concrétisé par un projet universitaire, et je suis parti faire des études là-bas, voilà.
Et vous avez appris la langue au moins un petit peu ?
Alors, j'ai fait l'effort de l'apprendre, j'ai fait surtout l'effort d'apprendre des caractères chinois nombreux et autres, et donc, mais c'est un peu comme les mathématiques, à force de ne plus exercer, il y a quelque chose qui s'est estompé. Mais oui, j'ai baragouiné suffisamment pour me débrouiller à un moment donné, oui, on va dire comme ça.
Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment la littérature, qu'elle soit japonaise ou autre, mais il y en a relativement peu qui font le pas que vous avez fait en 2011, qui est celui de fonder une maison d'édition. On se dit qu'il faut être un peu fou pour créer une maison d'édition.
Oui, dans la mesure où probablement l'espérance d'en vivre est quand même réduite déjà. Mais bon, il y a des choses qui se combinent entre la passion et le travail. Et donc quand quelque chose vous permet quand même de vivre en faisant quelque chose qui vous intéresse, c'est une bonne option. Mais après, ce sont les circonstances de la vie. Hein. C'est pas moi qui ai décidé comme ça un jour de faire de l'édition. C'est aussi parce que j'ai abandonné une ancienne carrière et à un moment donné, quoi choisir donc, moi, j'ai fait des études universitaires, j'étais peu armé être informaticien ou autre, ou même charpentier, hein, ce qui aurait été des métiers nobles. Mais donc, j'ai dû me débrouiller avec ce que je savais faire et j'ai eu l'impression que c'était quand même les livres, mon domaine. Voilà, et où je pouvais peut-être apporter quelque chose ou en tout cas maîtriser un minimum pour me lancer. Voilà.
J'imagine qu'il y a un déclic, il y a un moment où on se dit, tiens, voilà, ça, j'ai trouvé le premier livre que je vais éditer.
Alors j'ai cru, et effectivement, je pense que c'était une bonne idée. Je connaissais un auteur que j'avais interviewé, puis que j'avais soutenu à travers des publications que j'avais relues, corrigées, c'était Jean Chaumin. Et j'avais l'impression, à l'époque où j'ai commencé, que j'avais quand même un auteur d'un certain poids à disposition, quelqu'un d'hors norme. Et c'est aussi ça qui m'avait encouragé, c'est finalement de publier ces livres qui m'a fait passer le pas à l'époque, oui.
Alors disons peut-être un mot de Jean Chaumin pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est un auteur, mais avec un passé assez riche et assez porteur d'histoire.
Oui, alors c'est un acteur du grand banditisme, donc effectivement c'est particulier, mais ce qui est surtout particulier c'est cette capacité quand même d'écriture qu'a Jean Chaumin de raconter des histoires, ce qui est peu banal. Et j'aime bien cette idée que le discours vienne de l'intérieur. À une époque surtout, le discours d'expert est omniprésent, je trouve bien qu'on ait des voix qui viennent du milieu plutôt que de gens qui travaillent à partir de rapports de police. C'est un peu comme aujourd'hui, vous voyez, le livre de Jean-Pierre Rochat, Petite Brume. Voilà, une voix paysanne, mais qui vient de l'extérieur et pas de discours venant de l'Union européenne ou Dieu sait qui sur le monde paysan. C'est ça que j'avais retenu chez Jean Chaumin et ça me paraît important. Oui.
En même temps, quand on vient du grand banditisme, on n'est pas forcément un écrivain. Est-ce que le travail d'éditeur est important dans ce cas-là ?
Il est particulier parce que on a affaire à des gens qui n'ont pas d'habitude scolaire. Alors il sait raconter une histoire, c'est bien son style, sa plume, mais alors ça se présente dans le désordre le plus absolu. C'est-à-dire il faut à peu près mettre un peu en forme, on va dire. Et puis non, il n'y a pas un souci comme ça scolaire de croire qu'on est écrivain parce qu'on maîtrise la virgule et autres. Mais je crois que c'est le contenu qui est important et sa propre voix et son style à lui, brut mais total dans sa porter les perspectives qu'il ouvre, je crois.
Alors pour avoir lu Jean Chaumin, je trouve qu'il a ce qu'on attend de la littérature, c'est-à-dire une voix.
Oui, oui, et c'est une voix probablement unique parce qu'on ne peut pas redupliquer. Il ne peut pas y avoir de produit formaté dans ce cas-là. Voilà, donc moi je peux, à force de l'avoir lu et corrigé, j'imagine que je pourrais écrire comme lui, mais je n'ai pas les histoires à raconter. Il y a quand même l'expérience là qui est fondamentale, ouais.
Je reviens à la création de cette société d'édition. Peut-être une explication sur le nom BSN Press. Ça sonne comme une agence de presse un peu.
Oui, alors c'était... Bon, je l'ai raconté récemment, ça, c'est toujours la question qu'on me pose. Mais il n'y a pas de grand mystère. Comme j'étais comme ça à l'époque un spécialiste de l'Asie, entre guillemets, je me suis embarqué dans la création d'une entreprise là-bas, qui était d'abord une entreprise informatique et avec un volet qui concernait le livre numérique. Mais voilà, chemin faisant, livre numérique, livre, édition. Je n'ai pas pu m'empêcher quand même d'entrer dans le domaine du livre papier. Et donc, ce volet numérique existe toujours, mais il concerne surtout l'édition universitaire. Et puis autrement, pour le papier, c'est essentiellement de la littérature que je fais. Voilà. Et donc BSN, ça voulait effectivement le nom d'une société, pas de presse, mais presse, c'est un des termes possibles en anglais pour édition. Donc c'était Bangkok Services Network, le nom d'origine. Mais aujourd'hui, cette société n'existe plus. Donc j'ai juste hérité du label, voilà.
Les éditions BSN Presse se laissent volontiers séduire par les périphéries littéraires, la rigoureuse irrévérence scientifique ou les contre-allées spirituelles, c'est ce que dit votre site internet. Ça se traduit en trois collections, Fictio, Hypercute et Sapientia. La marge, l'irrévérence, c'est des moteurs, c'est une profession de foi.
C'est toujours des recherches de voix authentiques. Ces voix authentiques, notamment quand on parle de la marge, on a parlé de Jean Chaumin avant, elles ne peuvent pas apparaître, elles ne peuvent pas se faire entendre parce que déjà, il n'y a pas l'habitus pour maîtriser un discours dans notre monde. Quand ce discours vient, il faut savoir l'accueillir. Il est important parce qu'il nous apporte des connaissances, certes décalées, mais à partir d'un point de vue, de n'importe quel point de vue, je dirais, on peut analyser l'ensemble de la société parce que chez Chaumin, vous avez des réflexions qu'on peut mener sur l'éthique, sur le crime, sur la morale, l'économie, n'importe quoi. C'est pas parce qu'on parle du crime qu'on parle de rien ou d'une petite chose qui serait circonscrite. C'est bien de notre monde qu'on arrive à parler à partir de cet angle d'attaque. Oui.
Je vais revenir au mot voix que j'ai prononcé tout à l'heure à propos de Jean Chaumin. J'ai le sentiment que ce que vous cherchez, c'est des voix différentes. Hein. Quand on parle de la marge, de la différence, il faut que cette voix résonne autrement.
J'essaye, on a comme ça, j'ai pu trouver tout au long de ces années des voix particulières. Il y a Chaumin, on l'a dit, il y a Marius Popescu, il y a eu un moment aussi, il y avait Laure Mioune-Crozet, je trouve qui a fait beaucoup de bien à la maison d'édition par son énergie, par sa volonté, comme ça, dans le milieu, sa générosité. Il y a eu Permissé de Joseph Incardona qui a été très important. Il y a eu aussi aujourd'hui Nicolas Verdant qui a gagné le prix du Polar Roman avec un livre engagé, ce que j'aime bien quand même, un point de vue sur le monde actuel et sur ses dérives, voilà, ça me paraît bien.
Alors on va revenir sur certains de ces auteurs, mais j'aimerais dire d'abord que vous publiez également une revue, A Contrario, revue qui est plus âgée que les éditions BSN Press, puisqu'elle a été créée en 2003. Comment s'est fait le passage ?
C'est une revue qui a été créé dans un cadre universitaire et donc simplement le comité de rédaction était composé d'universitaires dont moi et j'ai été à un moment donné le rédacteur en chef de cette revue. Et puis au moment où j'ai créé ma maison d'édition, la revue à ce moment-là n'avait plus d'éditeur. Alors j'ai proposé de la reprendre pour la... Et puis c'était quand même un investissement très important en termes de temps et de sacrifice. Et j'avais envie quand même qu'elle survive parce que là aussi, dans le monde universitaire, dans cette revue a une particularité. C'est pas d'être prestigieuse comme certaines revues américaines ou anglaises ou même françaises, mais c'est surtout de permettre des publications de textes qui trouveraient peut-être pas forcément une place ailleurs dans le monde universitaire, qui est quand même assez rigide de ce point de vue-là. Voilà, sur la notion de science, sur ce qu'est la science. Voilà, d'où l'irrévérence parfois possible et un contenu scientifique quand même. Voilà.
Giuseppe Meron, si je dis que vous avez une prédilection pour le polar ou le roman noir depuis pratiquement les débuts de votre maison d'édition, vous êtes d'accord avec ça ?
Je suis d'accord en partie. J'ai toujours aimé le roman noir et je sais que j'ai aimé des gens comme Manchette, des gens comme Bunker. Mais c'est aussi un choix professionnel, il faut bien le comprendre, parce qu'à un moment donné, on doit choisir une ligne et j'avais cru... où j'ai cru que c'était une idée intéressante à l'époque où j'ai commencé d'explorer le domaine du noir parce qu'il me semblait inexistant en Suisse. Et alors, c'est pour ça que j'avais d'abord Jean Chauma qui rendait crédible cette démarche. Et puis j'ai eu cette idée d'un recueil collectif de 20 auteurs, L'aimant noir, qui d'un coup m'a permis en fait d'entrer comme acteur de plein pied. Là, ça s'est révélé une bonne idée. Mais c'est à la fois un intérêt, une partie du polar, en tout cas quand il est du roman noir et qui propose une critique sociale, une vision du monde, un regard sur le monde. Quand c'est une éducation du regard à proprement parler, ça m'intéresse. Mais c'est aussi un choix professionnel. Je lis plein d'autres choses que du polar. Je ne suis pas exclusif de ce point de vue-là. Mais c'est une des lignes quand même, une des colonnes vertébrales de ma maison d'édition, bien entendu.
Alors, on l'a dit, BSN Press est née en 2011. À l'époque, effectivement, le polar n'avait pas la notoriété qu'il a aujourd'hui. C'était encore une littérature de genre avec tout ce que ça trimballait d'un peu péjoratif. Fané ou visionnaire, vous avez senti que c'était un domaine qui allait prendre de l'ampleur parce que, alors il a pris de l'ampleur en Suisse, bien sûr, mais pas seulement.
Oui, je continue à croire que c'était une bonne idée parce que, en tout cas, moi, ça m'a permis de me faire connaître un peu plus rapidement que normal, je dirais, pour quand on débute. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une bonne idée. Mais ce que je croyais, c'était quand même de poursuivre un projet éditorial et intellectuel derrière le roman noir. Maintenant, le polar, on va dire... ce mot valise qui permet de mettre le thriller, le roman noir, le roman policier. On en a beaucoup parlé, il y a des auteurs qui ont beaucoup de succès. Mais disons, voilà, je pense que c'est une orientation très différente de celle que je recherchais. Mais en même temps, j'en bénéficie aussi, puisque je suis présent dans des salons. Mes auteurs gagnent parfois des prix avec ça, donc ça me paraît de bonne guerre, voilà.
Il y a une tradition dans cette émission, lorsque je reçois des auteurs, je m'intéresse toujours à la bande-son de leur livre ou de leur roman. Pour vous, comme éditeur, c'est important, la bande-son d'un livre, vous êtes sensible à la musique qui figure ou qui est mentionnée dans les romans que vous publiez ?
Alors, c'est peut-être pas ce qui me retient le plus, ouais. Mais c'est vrai que peut-être sur certains livres, là, j'ai pas la présence d'esprit de vous donner un titre, mais parfois, oui, il me semble que c'est nécessaire ou que ça soit musical. Peut-être j'ai eu ce sentiment d'entendre une musique, ou peut-être dans ma tête, pas une musique particulière, mais peut-être avec certains passages d'Incardona, certains passages de Chauma aussi, ou de Popescu, forcément. Hein. Il y a du Kusturica, donc on peut imaginer des choses. Ouais.
Ah bah ce sera notre première pause musicale. Emir Kusturica, c'est une très bonne idée. We'll be right back.
1999, the man killed the lion between punishment and crime. On the planet Earth, there was no more fun, no sex, no drugs, no rock and roll. All music turned to a fashion show. Pop and black man had soul. No, not a drop of blood, 'cause we the all kill the rock and roll. And God said, oh my God, what's happened to the human being? What's happened to my lovely creature? They all became a cold machine. No more love, no more power. Machine without gasoline. Hit you, 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 hit you with my rhythm stick. So let her be, let her be, let her be, let her be light. Let her be, let her be, let her be, let her be sound. Let her be a music divine, 'cause it's unza, 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 unza time. It's unza, 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 unza time. It's unza, 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 unza time. Unza time!
Voix de plume sur Radio Django.
Pour ce 8e numéro de Voix de plume, nous sommes toujours avec Giuseppe Meron, fondateur des éditions BSN Press, qu'il dirige. Il y a eu des jalons, Giuseppe Meron, dans votre parcours d'éditeur. L'un des premiers, semble-t-il, le recueil dont vous parliez tout à l'heure, hein, L'aimant noir, recueil de nouvelles qui vous... J'ai lu quelque part que c'est Marius Daniel Popescu qui vous a un peu poussé à publier ce recueil nouvelle. Vrai, pas vrai?
Oui, c'est une idée que j'ai eue, mais que j'ai partagée avec lui et qu'il a soutenue. Et donc, si vous voulez, pour la jouer un peu immigrée, comme on aime bien, et c'était un peu le parrain quoi, de l'affaire, d'accord, si vous voulez. Mais c'est vrai que je bénéficiais, surtout à ce moment-là, il avait sorti quelques années auparavant la Symphonie du Loup, qui est quand même un grand livre, il avait une notoriété qui était importante, il allait sortir Les couleurs de l'hirondelle, devenir prix suisse de littérature, donc c'était clair que moi je le vivais comme un soutien réel et important, plutôt une chance, voilà, oui, oui.
Vous êtes très lié à Popescu finalement, parce qu'il a, il a ce journal, cette revue qui s'appelle Le Persil, que vous avez soutenu assez intensément à une certaine période.
Oui, je m'étais investi à un moment donné, j'ai été président des amis du journal Le Persil. Oui, donc, il m'est arrivé de faire plein de choses avec Marius, par période un peu moins, dans l'avenir peut-être un peu plus, on verra, ça dépend des moments.
Dans un avenir très proche, vous allez le rencontrer, pas plus tard que jeudi soir, puisqu'on parle de Popescu, c'est l'occasion de parler effectivement de ce qui va se passer demain soir à la librairie Molly Bloom, qui se situe, pour ceux qui ne la connaissent pas, au 4 avenue William Fraisse. Il sera question de trois des livres que vous avez édités avec trois auteurs et un illustrateur ou une illustratrice, dont Marius Popescu, évidemment, qui parlera de Vente silencieuse, des poèmes. C'est gonflé aussi de publier des poèmes en 2018-2019.
Oui, mais en même temps, je n'aime pas trop le discours de Loris sur la poésie. Hein. Je me demande si on n'entretient pas une faillite au niveau des ventes ou commerciales, puisqu'on se plaint de ça. Hein. Je ne sais pas si on l'entretient, à force de parler d'une certaine manière. Moi, quand je lis la poésie de Marius, c'est comme une histoire. Oui, ça me pose aucun problème. Ce n'est pas obscur. Alors, bien entendu, il peut y avoir des choses extrêmement herbétiques, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas accessible, la poésie. C'est simplement là aussi, il faudrait indiquer ces lectures, il faudrait les valoriser. Et on ne doit pas se sentir bête ou penser que c'est ennuyeux. Au contraire, il y a des choses extrêmement belles, extrêmement vivantes, extrêmement drôles. Et Marius est un exemple, par exemple, dans sa poésie, à la portée de tous, mais avec beaucoup d'intelligence, de contenu quand même.
Alors moi, je pense qu'à force d'avoir dit que la poésie se vendait pas et qu'on n'en trouvait pas assez dans les librairies, c'est en train de provoquer exactement l'effet inverse. Je trouve qu'il y a un regain d'intérêt pour la poésie.
Oui, probablement, en tout cas des gens qui en écrivent, des gens qui en lisent, apparemment il y en a. Maintenant, comme éditeur, c'est vrai qu'il y a une certaine perplexité. Je ne peux pas dire que c'est le secteur qui tire ma maison d'édition, mais je pense que c'est bien, malgré tout, d'essayer de soutenir ce domaine littéraire. Et puis, même si on doit le faire avec un parcimonie, en tout cas à mon niveau, mais de temps en temps, je compte faire un recueil de poésie, oui. Par plaisir personnel aussi.
Alors quand on organise un événement comme celui de jeudi soir à la librairie Molly Bloom, comment est-ce qu'on choisit les auteurs? On a dit qu'il y avait Popescu, mais il y aura aussi Marie-Josée Imzand qui sera de la partie pour parler de son roman Affaires étrangères.
Oui, alors normalement quand on fait une dédicace, c'est souvent parce que c'est une nouvelle parution. Là, c'est pas le cas. C'était aussi le fait de réunir quelques personnes lausannoises, de faire connaître la librairie Molly Bloom qui a été créée par Nicolas Verdant, et puis de faire ressortir un peu Marius Dubois qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Donc une sorte de petit retour, un petit comeback en soirée. Et donc voilà, une soirée conviviale, prétexte pour discuter, lire des poèmes. Et parler, voilà.
Alors, des poèmes, il y en aurait également, mais accompagnés d'aquarelles avec D'un pas à l'autre, signé Zivo et Valérie Ivanovitch. On n'est pas loin du beau livre, là. Hein.
Alors oui, c'est un livre d'art, effectivement. Et donc, non seulement c'est un livre d'art, mais apparemment c'est un livre qui est né sous le signe amoureux, puisqu'il s'agit d'un couple, donc une femme qui est traductrice, écrivaine, poétesse, etc. Et puis Zivo, qui est un peintre établi à Lausanne, d'origine serbe, mais qui est connu déjà depuis de nombreuses années, et je crois un des premiers vainqueurs du prix FEMS, quelque chose comme ça. Et voilà, donc c'est un livre, c'est une mise en commun, des poèmes, d'abord des peintures, des poèmes, les deux se répondent, il y a une construction commune, voilà, quelque chose comme une relation, ça permet aussi peut-être de faire un livre parfois.
Je reviens à vos trois collections, Giuseppe Meron. Fictio, ce sont essentiellement des romans, littérature noire, littérature blanche. J'imagine, parce qu'alors, il y a cette blague qui dit que plus personne ne lit parce qu'il y a plus d'écrivains que de lecteurs bientôt. J'imagine que vous êtes extrêmement sollicité pour cette collection.
Alors, en tout cas, oui. Alors, si je compte les manuscrits qui arrivent, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent. Alors, c'est effectivement un petit peu moins convaincant du côté des ventes, donc il y a quelque chose comme ça. Mais bon, tout ce qu'on peut dire sans avoir fait une enquête comme ça, sans faire des déclarations à l'emporte-pièce, je peux juste constater qu'il y a un pouvoir symbolique du livre qui est important. Et on dirait qu'à un moment ou un autre, et quel que soit, même hors orientation artistique, d'avoir un livre, c'est quand même un objet qu'une personne peut trouver désirable. Comme aboutissement de quelque chose dans une vie, peut-être d'avoir écrit un livre, d'avoir son nom sur ce livre, ça semble avoir un intérêt. Et peut-être plus que d'avoir une vidéo de lui quelque part. Voilà. Donc il y a un pouvoir symbolique du livre, même si probablement au niveau de la lecture, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il y a un affaissement à cause d'autres supports artistiques, d'autres moyens de lecture, à cause d'Internet? Ça, on dit beaucoup de choses, mais voilà, je ne me suis pas assez documenté de ce point de vue-là pour avoir une réponse affirmée. Mais je crois qu'il y a des gens qui lisent et il y a des gens qui aiment les livres encore. Ouais.
Je vous croise de temps en temps dans des manifestations littéraires et je vois bien comment, quand vous allez fumer une cigarette, les gens vous abordent et on se dit, ça y est, il y en a un qui a un manuscrit à placer. Ça arrive tout le temps, ça.
Ben forcément, ça peut pas être autrement. Et puis pourquoi pas, hein, voilà. Et puis si vraiment je suis dans un mauvais jour, je peux dire gentiment que c'est pas le moment d'envoyer ça par écrit, que ça vaut mieux, voilà. Mais de toute façon, c'est quelque chose, voilà, que ça, par exemple, je l'attendais pas, j'avais pas prévu. Donc ça devient un problème un peu en soi. Il faut que, malgré, ça fait pas mal d'années, vous voyez, que j'ai commencé, mais je dirais que j'ai pas trouvé mes marques dans la gestion des manuscrits et des propositions. Oui. Parce que j'ai vite été débordé à partir du moment, je dirais, où la maison a eu une certaine notoriété, tout à coup, ça a changé la donne et j'ai jamais pu récupérer le retard d'une certaine manière. Voilà.
Ça intéresse toujours les gens de savoir comment ça se passe dans la cuisine. On a reçu Jean-Luc Borja dans cette émission, par exemple. Qu'est-ce qui fait que celui-là, tout à coup, vous dites, ouais, pouf, celui-là, j'ai très envie de l'éditer?
Parce que j'aime bien ne pas être enfermé toujours dans les mêmes cases. Alors, je me rappelle qu'il y a quelques années, on m'avait invité dans une émission de radio. On avait présenté mes collections noires comme des polars un peu intello. Je vais très, très intéressant, ouais, pourquoi pas, effectivement. Mais en même temps, Jean-Luc Borja, ça m'est une figure comme ça, locale, populaire, et puis un vrai passionné d'aviation. Et donc, moi, ça, j'aime bien quand les gens parlent de ce qu'ils connaissent. Alors, il y avait une maîtrise dans le combat aérien, etc. Et donc, voilà.
Et dans la pêche à la mouche.
La pêche à la mouche, évidemment. Et puis, il a réussi à bien combiner les deux. Et ça me semble être le type de roman, comme ça, qu'on dit populaire, mais avec une écriture quand même de qualité, une histoire et une rigueur quand même dans ce qui est raconté, qui est intéressante. Ouais. Et donc, voilà, ça me permet aussi de ne pas être toujours qualifié d'un télo dans ce que je fais, quoi.
Alors, il y a chez BSN Press une collection que j'aime beaucoup qui s'appelle Hypercut, qui est une très bonne idée, des romans courts avec un lien avec le sport.
Oui, et d'ailleurs, l'idée du roman court, c'est, je pense, une bonne idée, j'y reviendrai, mais ce qui est très étonnant parfois, comme dans les critiques que j'ai pu lire dans les journaux, il y a un reproche qui est fait à l'auteur d'avoir fait un roman court, alors que c'est une contrainte et une consigne. Donc, si quelqu'un m'entend, ce serait bien d'éviter cette critique parce que c'est pas à l'auteur. Éventuellement, on peut s'en prendre à moi en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce choix délirant d'imposer une contrainte de roman très court. Mais Hypercute, donc le terme dit tout, je crois. On parle de sport, on parle de textes vigoureux, rapides. Et pour moi, ce sont des textes qui doivent avoir la longueur d'un match de foot. Je pense qu'on peut remplacer avantageusement une Coupe du Monde avec les lectures de ce livre. Mais ça doit être un défi sportif, lui aussi, il doit être de la même durée que ça. Et je trouve que le résultat littéraire est pas inintéressant parce que ça oblige les auteurs. C'est pas une nouvelle, c'est pas un roman, mais il faut faire plus que la nouvelle et être très précis dans ce qu'on écrit pour traverser ces pages aussi rapidement. Et parfois, hein, je nommerai personne parce que je veux vexer personne, mais parfois je trouve que c'était le meilleur livre des auteurs alors qu'ils ont écrit peut-être des ouvrages plus gros. Donc c'est pas un échec du point de vue littéraire, cette affaire. Je pense qu'en plus, on peut comprendre le monde à travers le sport si on l'aborde sous différents prismes.
On parlait de Laure Mioune-Crozet tout à l'heure. Elle en a fait un excellent dans cette collection qui s'appelle « S'escrimer à l'aimer ». Et elle l'a construit comme un match d'escrime, finalement.
Oui, alors évidemment, Laure a contourné la contrainte parce qu'elle m'a proposé un livre sur l'escrime, mais c'est plutôt un rapport épistolaire entre amoureux. Mais c'est vrai que la construction des récits reprend la cadence d'un combat, d'un match, on dit, je crois, d'escrime. Ouais, voilà. Donc c'était intéressant, mais c'est un beau texte. Ouais. J'ai bien aimé, sensible et drôle à la fois. Ouais.
Dans les tout récents, il y a le Florian Aiglin sur le MMA.
Oui, alors là aussi un texte que je trouve réussi, qui tranche avec ce qu'il a fait avant, hein, avec des textes très violents. Là aussi, il y a une réflexion sur la violence, puisque ça a l'air d'être le centre quand même de son travail, mais sous une forme, je dirais, plus positive et pédagogique, mais sans que ce terme véhicule l'ennui. Vous voyez, il y a quand même une prise en compte. Voilà, on parle d'un jeune, de ses problèmes et de ce que peut constituer un sport de combat comme sortie de crise ou comme rédemption. Ça me paraît, c'est un vieux thème du sport de combat, hein, de la boxe en particulier, mais là c'est particulièrement réussi. Je trouve que c'est un joli texte, vraiment. Ça m'a beaucoup plu de le lire, en tout cas, quand je l'ai reçu.
Il y en a un troisième que j'ai envie de mentionner, c'est celui de Marie-Christine Horn, 24 heures. Bizarrement, dans une collection à contraintes, c'est peut-être son livre le plus personnel, celui où elle se dévoile le plus.
Oui, alors voilà, c'est un peu la contrainte, dirait Valérie, elle est créatrice. Voilà, c'est exactement le cas. Et puis c'est d'une efficacité redoutable, c'est un vrai thriller. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce roman. Et effectivement, c'est un hommage à son père, qui était lui-même pilote automobile. Et voilà, donc c'est vrai, vous avez raison, c'est une belle réussite, oui.
Est-ce qu'il vous arrive de passer commande pour Uppercut ? Parce que j'imagine que c'est compliqué, vous devez avoir 15 auteurs qui arrivent en vous disant « je vais faire un livre sur le football » et puis zéro qui veulent en faire sur l'escrime ou sur les échecs.
Je sollicite parfois, je me dis ouais, comme il n'y a pas de... C'est un peu particulier, c'est comme publier, vous savez, dans un recueil de nouvelles. Donc il n'y a pas... Parce que je n'aimerais pas aller m'adresser à un auteur qui est déjà chez un autre éditeur. Je pense qu'il ne faut pas commencer à essayer de débaucher ou autre. Mais par contre, c'est une collection qui nous rend assez libre d'aborder qui on veut. Donc des fois, je dis, ah mais toi, ça serait pas mal que tu... Enfin, je vois que tu t'intéresses à ça, pourquoi... etc. Certains me le proposent, certains je leur ai demandé. Et puis voilà. Et puis beaucoup y pense, et puis comme Aiglin, on en avait peut-être parlé il y a 2 ans, et puis voilà, un jour il est venu avec son livre, et puis voilà. Ouais.
C'est le moment de faire une deuxième pause musicale. Qu'est-ce qui irait bien comme musique à la collection Uppercut ?
Ça c'est pas facile. Soyons fous, mais mettons dans le film de Rocky, c'était James Brown, Living in America, puisqu'on parle de Aiglin, ça pourrait être représentatif un peu. Ouais.
Voix de plume sur Radio Django.
Giuseppe Meron est l'invité de ce 8e numéro de Voix de Plume. Il est le fondateur et le directeur de BSN Press, maison d'édition qu'il dirige depuis 2011 à Lausanne. Giuseppe Meron, on ne peut pas parler de BSN Press sans parler de Joseph Incardona. Moi, j'ai le sentiment que vous lui avez fait confiance un peu avant tout le monde.
Oui, mais en même temps, on ne décide pas ces choses comme ça de manière extrêmement rationnelle. Je sais que j'avais lu le livre de poche du curé de Chaise qui devait être, je ne sais plus quand il est paru, peut-être en 2005, 2006. Donc moi, je l'ai pris innocemment, comme un lecteur qui part en vacances et qui a besoin d'un format, le poche. Hein, et j'avais vu un peu cette référence à John Fante, comme ça. Puis j'avais lu, puis j'avais trouvé vraiment sympa comme livre. Et puis je pensais que voilà, c'est un auteur comme ça, installé, important, etc. Et puis effectivement, c'est quelqu'un qui a fait une belle carrière en France jusqu'en 2015. Où il a obtenu le prix du roman policier et le grand prix du roman policier, pardon. Mais effectivement, j'ai découvert qu'il était un peu moins connu, peut-être de gens du milieu littéraire à proprement parler, là il n'y avait pas de problème, mais du grand public un petit peu moins. Et j'ai l'impression que. Mais quand il m'a abordé, il est venu avec ce projet de Permis C. Puis finalement, on avait décidé de refaire la trilogie parce qu'il avait deux ouvrages qui se complètent. Donc Permis C, le Cuir de Chaise et Banana Spleen. Mais ces ouvrages avaient été publiés avant, ils étaient épuisés. Donc j'ai republié ces deux ouvrages plus l'ouvrage original Permis C qui finalement a été un joli succès quand même pour nous parce qu'on a atteint des objectifs intéressants, des traductions, une traduction en allemand, le passage en livre de poche, un prix littéraire important. Voilà, c'était quand même quelque chose d'un peu nouveau pour moi et peut-être pour lui en parlant de la Suisse. Donc ouais, ce genre de choses qui se révèlent des bonnes associations pardon, à un moment donné, oui.
Ça vous a étonné ce succès de Permis C parce que si on parle un peu trivialement, c'est l'histoire d'un petit Rital qui a deux trois soucis d'intégration quoi. C'est juste très très bien écrit, très très bien vécu et très très bien restitué.
Écoutez, je dois vous dire, c'est le à un moment donné où j'ai hésité en me disant ouais c'est quand même fatigant ce métier d'éditeur, beaucoup de travail pour peu de retombées, j'avais quand même un petit peu misé sur ce livre et puis je sais pas pourquoi, même si je me rappelle qu'au début il y avait quand même une certaine tension, je me dis ouais, pourquoi on n'en parle pas assez comme ça, ça a mis du temps hein, parce que c'est pas Dicker qui débarque, il n'y a pas toute la coterie qui est derrière pour expliquer que c'est un chef-d'œuvre, donc il a fallu quand même le faire découvrir que c'était un bon livre. Mais ça s'est imposé un peu à la fois. Mais je dois dire que comme ça, je dirais de tous les livres que j'ai publiés, c'est celui où j'ai eu le sentiment que ça ne pouvait pas rater. Le titre me paraissait imparable. La couverture, si on parle de choses même superficielles, me paraissait intéressante. Et puis le livre était à la hauteur. Et je pense que quand même, ça parle d'une expérience partagée. Et je sais aussi, moi, de quoi ça parle d'une certaine manière et beaucoup d'autres. Et donc, voilà, j'avais l'impression que c'était un livre qu'on ne pouvait pas, même avec la plus grande des mauvaises volontés de certains journalistes, ça ne pouvait pas passer inaperçu. Voilà.
Alors le titre imparable, Permis C, imparable en Suisse, il a fallu le changer pour la France.
Oui, ben, écoute, on en avait discuté avant, on se dit, ouais, Permis C, c'est un permis de camion, qu'est-ce qu'on va faire en France avec ça? Mais on s'est dit que notre préoccupation, c'était d'abord la Suisse, parce que vendre en France pour un éditeur suisse, c'est quand même un peu une chimère. Il y a quand même des choses à rééquilibrer sur le marché intérieur d'abord. Donc l'important, c'était de pouvoir présenter ce livre sur le marché suisse. Et puis alors là, tout à coup, il y a eu quand même la concordance de cette carrière que Joseph avait quand même en France, c'est-à-dire que avec l'ensemble de ses autres livres publiés chez Finitude en particulier, Permis C est passé en poche, mais sous un autre titre, Une saison en enfance.
Dans le parcours de BSN Press, on ne peut pas ne pas parler de ce livre incroyable, quasi posthume d'Ariane Ferrier. Je me suis demandé comment vous aviez travaillé en tant qu'éditeur avec Ariane, qui avait choisi de ne plus se soigner hein, à cause de la rechute de son cancer. Donc elle savait que ce livre, c'était son testament d'une certaine manière. Ça doit être extrêmement compliqué comme éditeur.
Oui, alors ça d'abord c'était pas une excellente nouvelle aussi du point de vue éditorial, outre sur le plan existentiel, mais voilà, il y a des moments, il y a des choses sont impossibles à refuser. En tout cas, si on parle d'amitié, il est clair que le devoir d'assistance, il est là. Et donc quand elle m'a proposé ça, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Et il a fallu commencer à travailler dans des conditions qui n'étaient pas toujours simples, mais extrêmement intéressante parce que là, il ne pouvait pas y avoir de faux fuyants, même avec la maladie. Il fallait dire les choses telles qu'il fallait les dire. Par exemple, je lui ai dit tout de suite, maintenant tu es lucide, c'est pas sûr dans 3 semaines, donc si tu veux écrire, commence demain. Chose que j'aurais jamais osé dire à quelqu'un autrement. Mais comme elle avait de l'humour, on pouvait aussi discuter. Donc elle a été extrêmement courageuse. Et puis même, elle a été vers des pages comme ça sur lesquelles je la voyais pas écrire, sur les problèmes intestinaux, par exemple, mais qui sont des fondamentales. Si on veut comprendre ce que c'est un séjour à l'hôpital d'une malade du cancer, elle est allée sur des terrains où sa pudeur l'empêchait généralement d'aller. Est très réussie comme elle l'a fait finalement, avec beaucoup d'humour, en contournant là aussi un petit peu le problème, mais elle a traité de questions aussi originales à travers ce livre. Ouais. Et donc elle a fait ce qu'elle a pu, mais on voit qu'elle avait du métier, parce que finalement, moi, ce qui m'inquiétait, c'était qu'est-ce qu'il va falloir que je reprenne tout? Alors, mais finalement, elle m'envoyait des bouts comme ça, puis je me disais, ouais, mais c'est très bien comme ça. Donc, j'ai laissé ce qu'elle m'a écrit. Voilà, c'est son livre à elle. Je ne suis pas intervenu beaucoup, et le résultat me paraît très bien comme ça. C'est ce qu'elle pouvait faire avec les moyens qu'elle avait à disposition à ce moment-là, et puis très courageux. Ben, évidemment, c'est une leçon de vie en fin de compte, que de suivre ça. On se croit très malin souvent, mais là, j'en menais pas toujours très large par rapport à ça. Je me disais, mais quand même, comment fait-elle? Comment peut-elle trouver la force de faire ces choses-là? Donc oui, c'est malgré tout une expérience que j'ai trouvée assez belle. Ouais.
Et puis quand la vie et le destin s'en mêlent, c'est compliqué. Elle a tout juste eu le livre dans les mains, quoi.
Oui, alors ça, c'était un petit peu. Parce que vraiment, elle avait l'impression qu'elle allait vivre encore un moment. On avait planifié plein de choses. On avait déjà nos dédicaces dans les grandes enseignes de la place, etc. Mais ça s'est dégradé très rapidement. Et elle a juste eu le temps de voir le livre. Alors que là, je pensais qu'elle pourrait au moins bénéficier comme ça de cette sortie. Peut-être qu'elle imaginait comme ça une sorte de rituel où les gens qui voulaient lui dire adieu pouvaient la voir dans un contexte comme celui-là, et puis partager son expérience, léguer quelque chose à travers son livre. Ouais. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, évidemment. Voilà.
Mais on peut dire qu'elle a légué quelque chose à travers son livre, même si elle n'était pas là pour nous le dire.
Ça, de toute façon. Mais c'est vrai que je me souviens l'importance qu'elle mettait à suivre la sortie du livre. Et ça, malheureusement, ça n'a pas pu être le cas.
Ça ferait une bonne transition parce que je sais que vous aimez bien suivre aussi la sortie de vos livres et que vous êtes assez attaché à. Alors, il y a toute la partie dont on a parlé, hein, comment on choisit un manuscrit, comment on accueille un auteur, etc. Après, il y a l'objet livre et j'ai le sentiment que vous aimez aussi accompagner la fabrication.
Oui, j'aime bien. En tout cas, j'ai essayé de le faire. En tout cas, au début, j'ai essayé de faire toutes les étapes de la fabrication. Le choix du manuscrit, la relecture, la correction, la fabrication et la promotion. Maintenant, vu le nombre d'activités qui s'accumulent, des fois, ben voilà, par exemple, à un moment donné, j'ai lâché la diffusion parce que j'allais moi-même dans les librairies, etc. La distribution, je l'ai très rapidement donnée, j'ai très rapidement délégué parce que là, tout le problème logistique, de la facturation, des dépôts en librairie, ça, c'est un métier en soi et ça demande un suivi qui est extrêmement pointu. Mais par contre, j'aimais bien faire la diffusion moi-même, c'est-à-dire connaître, d'aller, d'écrire au libraire, éventuellement de passer. Mais voilà, le problème c'est que géographiquement c'est vite compliqué. C'est facile de le faire à Lausanne, à Genève, à Morges, mais après d'aller en Valais, au La Chaux-de-Fonds, et puis voilà. Donc évidemment, quand vous avez un diffuseur, vous avez des représentants qui travaillent pour vous et qui présentent vos livres. Donc ça facilite quand même les choses. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé suivre un peu le livre. Je considère qu'un livre, pour qu'il soit vraiment un livre, sa réception en fait partie, que pour que ça ne soit pas que des caractères d'imprimerie sur une page blanche, c'est bien qu'il ait des lecteurs et ça devient un livre à ce moment-là. Donc le faire connaître. Oui.
J'ai dit que BSN Press avait été créé en 2011, j'ai pas dit que ça avait été créé au printemps, donc on va arriver à 8 ans d'existence. Quand vous regardez dans le rétroviseur sur ces 8 années, vous vous dites quoi ? Finalement, j'ai donné naissance à des livres, où il y a quelques livres qui ont décidé de prendre en main ma vie.
Je pense comme toute chose, il y a une forme d'ambivalence et les deux réponses sont vraies puisque voilà, je suis initiateur d'une entreprise, et cette entreprise crée des livres et j'y suis pour quelque chose. Mais il est vrai que parfois le destin de ces livres nous échappe totalement, il nous aspire dans des choses qu'on n'avait pas prévues, en bien ou en mal d'ailleurs.
Ouais. Alors j'imagine que comme tout éditeur, il y a un manuscrit que vous a filé entre les doigts, celui que vous auriez aimé publier, et que soit que vous n'avez pas lu le manuscrit assez tôt et que quelqu'un d'autre l'a publié à votre place. Vous avez un grand regret comme ça sur ces 8 années ?
Qui m'est filé entre les doigts, je ne pense pas. Mais peut-être un livre que j'attendais, mais qui a finalement été ailleurs, ouais, peut-être. Ouais. Ça m'est arrivé une ou deux fois, ouais. Mais pas le manuscrit que j'aurais raté, ou peut-être je l'ai raté, mais j'ai même pas vu. Enfin voilà, parce que j'ai pas, peut-être pas été assez attentif, non. Mais j'ai pas l'impression, vous voyez, d'avoir eu Proust dans les mains et d'avoir raté l'affaire, quoi. Par contre,
il y avait Grasset pour ça.
Ouais, il y en a d'autres qui se sont occupés de ça. Mais non, Dicker m'avait pas envoyé son manuscrit. Et puis autant mieux parce que j'aurais pas vu, quoi. Et puis de toute façon, je veux dire, ça sert à rien de fantasmer. Derrière, il y a une maison d'édition qui peut arriver à ce genre de résultat, ce qui est pas du tout mon cas. Faut pas. Même si on me donnait Houellebecq comme nouvel écrivain, il vendrait 500 exemplaires peut-être. Oui. Donc il faut aussi, sans dire du mal de l'écrivain, hein, c'est juste que même le succès est une construction sociale et ça demande des moyens, des stratégies qu'un éditeur de ma taille n'a pas forcément. Donc je préfère encore travailler avec les auteurs que j'ai qui sont à la juste place et qui, à travers moi, peuvent progresser, j'ai l'impression. Voilà.
Vous aimez travailler sur la longueur avec eux, sur plusieurs ouvrages ?
Oui, je pense que c'est bien, parce que j'ai l'impression que le premier livre n'est jamais, c'est jamais le plus convaincant. Pas parce qu'il est plus mauvais que le suivant, mais j'ai l'impression qu'il faut faire entrer l'auteur, il faut que les gens habituent, surtout si vous êtes un éditeur récent, il faut s'habituer à ce que l'auteur, pourquoi il aurait quitté telle maison pour venir chez moi. Il faut un petit temps d'adaptation et j'ai l'impression que le deuxième a été plus concluant généralement que le premier, même si par exemple dans le cas de Verdant c'est parti pas trop mal finalement pour un premier livre, ouais.
On peut le dire. Question inverse à l'avant-dernière, le livre dont vous êtes le plus fier, et ça n'a rien à voir avec la qualité de l'auteur, hein, mais peut-être à cause de l'histoire, de la rencontre, de la fabrication du livre, enfin, ou de son succès, celui dont vous êtes le plus fier.
Je pense que le plus important, parce qu'autrement il n'y aurait pas les autres, c'est Échappement libre. Parce que c'est ça qui m'a décidé de faire. Donc il a forcément, personne ne peut le dépasser. Maintenant, si on parle de la croissance de la maison d'édition, peut-être le plus important, c'est le livre d'Ariane Ferrier ou Permissé, etc. Mais je veux dire, ce qui rend tout possible, c'est quand même Échappement libre. D'avoir eu ce livre dans les mains, ça m'a dit, oui, je crois qu'on peut faire, on peut commencer l'édition avec un auteur hors norme, voilà.
Merci beaucoup Giuseppe Meron. Rendez-vous demain de 17 à 19h à la librairie Molly and Bloom, avenue William Fraisse 4, pour la rencontre avec vos auteurs. Et puis rendez-vous dans toutes les bonnes librairies pour déguster l'ensemble de la production de BSN Press. Merci à nos auditeurs aussi et surtout, n'oubliez pas de lire.
Boule de cuir tourne dans la lumière de ton œil électrique. Box, box, aux déesses de pierre. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune puncher. Box, box, lui le vieux Kid Marin. Kid Marin, c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. Ô déesse de pierre, pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Box, 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 il faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre bombardent le plexus. Box, box,
l'angle du maxillaire. Quatre boules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse, boxe. Il esquive mon swing. Kid Marin, j'en ai marre de notre réunion. Je vais te faire voir qu'il est de champion. Boxe. Quatre boules de cuir et soudain deux qui roulent, répandant leur chapelle dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7, boxe. Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve. Et c'est moi qu'on soutient, et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on débande mes mains. Kid Marin, vient me voir, ça ira mieux demain. Au TS de Pierre, je prendrai ma revanche et j'aurai ton sourire, boxe, comme une maison blanche. Oui, j'aurai ton sourire, point final de mes points, même si dans les coins, boxe, boxe, j'y vois encore luire. Quatre boules de cuir, quatre boules de cuir.
Voix de plume, à retrouver sur django.fm.